Et ce soir, nous allons parler de quelque chose qui est très encourageant dans la vie du chrétien. Il s'agit ici de comment vivre une vie chrétienne épanouie. Comment est-ce que nous pouvons vivre une vie chrétienne épanouie? Ce soir, le Seigneur nous rappelle qu'il nous a appelés, autant que nous sommes, à une vie épanouie en lui. Une vie chrétienne épanouie est une vie qui s'inscrit dans le parfait projet de Dieu. Parce que Dieu a formé pour chacun de ses enfants un projet. C'est une vie qui repose sur Dieu. Dieu prend sur lui nos soucis. Il prend sur lui nos préoccupations. Il prend sur lui toutes nos questions sans réponse. Il prend sur lui nos craintes. Et bien sûr, quand il prend sur lui, nous partons légers. Parce que nous avons déposé à ses pieds, n'est-ce pas, tout ce qui nous tracassait. Cependant, une vie chrétienne épanouie ne voudrait pas dire une vie sans épreuve, une vie sans problème. Non, c'est une vie où on apprend tout simplement à tout laisser entre les mains de Dieu, les bons comme les mauvais événements qui peuvent survenir dans notre vie, sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une vie chrétienne épanouie, c'est une vie ayant un but. La vie en Christ a un but, un objectif. Notre vie en Christ n'est pas dépourvue de sens. Notre vie en Christ a un sens. Nous avons été créés afin de vivre et marcher devant Dieu. Comme Dieu a dit jadis à Abraham, « Marche devant moi et sois intègre. » Nous avons été créés afin donc de marcher avec Dieu. Nous avons été créés afin de marcher en Dieu. Bien sûr, ceci dans l'adoration et la louange pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il va encore faire, parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Cela veut dire que lorsque notre vie semble avoir perdu son but, avoir perdu son sens, ceci doit être une alerte, tout simplement, que le Seigneur nous envoie. Nous devons revenir au pied de Dieu, afin qu'il nous secoure et nous redonne de redécouvrir ce sens, n'est-ce pas, qui est donné à notre vie chrétienne. C'est-à-dire, nous avons été créés pour adorer notre Dieu, pour rentrer dans cette relation avec lui, pour cheminer avec lui. Oui, la vie chrétienne aussi, c'est une vie qui nous met à l'abri des besoins nécessaires. Pas de tous les besoins, mais du besoin nécessaire, sans superflu. Le Seigneur pourvoit aux besoins nécessaires de la vie qui nous donne de vivre. Oui, c'est aussi une vie d'amour et de bonheur. C'est une vie de paix, c'est une vie de joie. Ceci voudrait tout simplement dire que si jamais nous perdons notre paix, si nous perdons notre joie, si nous n'avons plus d'amour dans nos cœurs, ceci montrerait tout simplement que quelque chose ne va plus dans notre relation avec Dieu. Ce sont des indicateurs. Attendons-nous tout simplement à aller au pied de la croix pour recevoir consolation de notre Dieu. Et si nous commençons à nous inquiéter de manière inquiétante pour des besoins matériels, des besoins physiques, émotionnels, nous devons nous rappeler que le Seigneur nous a fait la promesse de s'occuper de nous. Il est fidèle. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Il est avec nous maintenant jusqu'à ce qu'il revienne. Il est avec nous. Je vais vous demander de prendre avec moi le passage biblique de 1 Pierre 3, des versets 10 à 12. Il est dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Pierre ici va donner à nous un cadre de ce qui peut être une vie chrétienne épanouie. C'est une vie où on s'éloigne du mal. On s'éloigne du mal. C'est une vie où on recherche le bien, coûte que coûte. C'est une vie où on recherche la paix. On la recherche pas seulement, mais on la poursuit. On la poursuit. Nous sommes des hommes et des femmes de paix. C'est aussi une vie où on sait tenir sa langue. Le psaume 18, au verset 21, dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, la langue, comme dit Jacques 3, versets 5 à 9, est un petit membre, mais qui nous tient en laisse. Nous devons dompter notre langue, parce qu'avec nos langues, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons l'adorer. Mais aussi, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aussi maudire les hommes que Dieu a créés à son image. Il ne doit pas en être ainsi. Voilà, en quelque sorte, des recommandations que nous donne Pierre pour pouvoir mener une vie heureuse, c'est-à-dire une vie épanouie en Christ. Vous savez, Dieu a déjà réservé une vie épanouie pour chacun de ses enfants. Vous pouvez être sûr que, avec certitude, Dieu a déjà préparé une vie épanouie pour toi, pour moi. N'en doutons pas. Sur la croix, le Seigneur Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever. Tout est accompli. Tout est accompli. Le Seigneur Jésus a fait des projets. Il a formé des projets pour chacun de ses enfants. Et ces projets, ce sont des projets qui ont un avenir, une espérance. Nous ne sommes pas le fruit de hasard sur cette terre. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a désirés. Dieu nous a voulu sur cette terre. Comme dit Jérémie 29 au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » La vie d'un enfant de Dieu ne s'arrête pas après la mort physique. Oui, après la mort physique, l'enfant de Dieu est accueilli dans la félicité éternelle par son Père. C'est l'espérance chrétienne. Nous avons un avenir et une espérance, même après la mort, parce que nous aurons la couronne de la vie éternelle que Dieu réserve à tous ceux qui auront combattu le bon combat et qui auront achevé la course en gardant la foi. C'est cette couronne qui nous attend. Oui, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour chacun de ses enfants. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Il nous garantit un avenir et une espérance. C'est ça, la vie chrétienne épanouie à laquelle Dieu nous appelle. Le malheur, bien sûr, peut atteindre souvent le juste. Il ne faut pas que nous soyons ébranlés dans ce cas-là, parce que la parole de Dieu dit que le malheur peut atteindre le juste, mais le Seigneur ne dit pas son dernier mot. Le Seigneur l'en délivre toujours. Nous devons tout simplement, n'est-ce pas, savoir que quand le malheur arrive, quand les épreuves arrivent dans nos vies, ils ne viennent pas pour s'installer. Ils viennent pour passer et donner gloire au Seigneur. Et même, je vais vous surprendre ce soir, certains malheurs qui apparaissent dans la vie des enfants de Dieu viennent contribuer à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas seulement les bonnes choses, mais aussi les mauvaises. Humainement parlant, bien sûr, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Si nous prenons le cas de Jonas, Jonas a été avalé par cette baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Ce prophète est resté dans le ventre de ce cétacé. Ce fut des moments d'épreuve pour lui. Mais ce qui est arrivé à Jonas a contribué à l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée, à savoir annoncer la parole à cette ville de Ninive. Et bien sûr, un peu plus tard, la ville de Ninive sera sauvée de la destruction. Tout simplement parce que le prophète a pu apporter, n'est-ce pas, cette parole. Donc ces moments d'épreuve dans le ventre du poisson a contribué à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oui, faisons tout simplement confiance au Seigneur. Il est au contrôle de toutes choses. Nous devons analyser les événements qui nous arrivent, demander à Dieu de nous éclairer afin de saisir pleinement l'objectif de ces épreuves. Parce que Dieu a toujours quelque chose, une leçon à nous apprendre. Face aux épreuves, ne pas céder, n'est-ce pas, à la crainte, ne pas céder à la confusion d'esprit, mais se tenir ferme sur les promesses de notre Dieu. Il est fidèle parce qu'il a formé des projets, non pas de malheur, mais des projets de bonheur, faits d'espérance pour ses enfants. Et le summum de cette espérance, c'est le salut de nos âmes. Vous savez, à cause de notre état de péché d'homme, nous avons été condamnés, privés de la présence de Dieu. Mais le Seigneur Jésus est venu, il nous a rachetés, n'est-ce pas, de cette condamnation. Il a pris même notre place et il nous a donné le salut pour nos âmes. Voilà notre espérance d'enfants de Dieu. Nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Nous marchons désormais avec Dieu. Et Dieu nous tient par sa puissante main. Il nous protège tous les jours de notre vie. Et ce n'est pas les quelques épreuves que nous pouvons avoir qui peuvent changer quelque chose à cela. Oui, nous avons la certitude de la vie éternelle. Nous savons que nous aurons cette couronne de vie quand le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire. N'est-ce pas? Nous connaissons la destination. Nous connaissons la destination. C'est ça qui est important. La destination, c'est la félicité éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Seigneur Jésus a tout accompli. Oui, lorsque nous sommes instruits de toutes ces choses, comment ne pas mener une vie sereine, une vie chrétienne épanouie, dans la douce et rassurante présence de Dieu? La vie épanouie en Christ aussi, c'est une vie de paix. Une vie de paix. Le Seigneur Jésus dira dans Jean 14, au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, la paix que Dieu donne, c'est une paix parfaite. Vous savez, surtout en ce moment où il y a des conflits, ça et là, les hommes cherchent la paix, essaient d'élaborer la paix, mais ces paix élaborées par les hommes sont imparfaites. Mais Dieu donne une paix parfaite. C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Et cette paix est au fond de nos cœurs. Et c'est l'Esprit de Dieu qui entretient cette paix. La vie épanouie en Christ aussi, c'est une vie de joie. Une vie de joie. C'est pour ça que Paul dira aux Thessaloniciens, « Soyez toujours joyeux. » 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Et le psalmiste continuera dans le psaume 126, au verset 3, en ces termes, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. » C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir pour ce que le Seigneur a fait pour vous? Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. C'est pour ça que nous devons chérir, n'est-ce pas, cette vie épanouie que le Seigneur a préparée d'avance pour nous. Dieu met des élans de joie dans le cœur de ses enfants. Et nous devons garder précieusement, n'est-ce pas, cette joie, parce que le diable tentera quelquefois à nous enlever cette joie. La joie que le Seigneur nous donne fait partie intégrante de cette vie épanouie, n'est-ce pas, en Christ. Et cette joie est entretenue par le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés. Nous avons été scellés. Et le Saint-Esprit, c'est aussi notre gage d'appartenance à notre Dieu. Il vient vivre en nous par son Saint-Esprit. Et nous sommes ses enfants, nous marchons à sa suite. Il nous donne sa joie en permanence. Et cette joie ne dépend quelquefois pas des circonstances, puisque c'est entretenu par le Saint-Esprit. La vie épanouie en Christ aussi, c'est une vie d'amour, puisque le Seigneur Jésus nous a aimés le premier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il nous a aimés le premier. Et nous, en retour, nous devons aimer Dieu et aimer aussi le prochain. Aimer Dieu, en fait, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Comme dit 1 Jean 5, au verset 3, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Vous savez, au cours de l'histoire, certains hommes ont cherché à savoir ce que c'était qu'aimer Dieu. Et certains se sont fourvoyés. Et ils ont cru que c'est en se flagellant quelquefois qu'ils pouvaient montrer qu'ils aimaient Dieu. C'est ainsi que les hommes et les femmes se promenaient avec des fouets, n'est-ce pas, pleins de clous, et se flagellaient sur la place publique, jusqu'au sang quelquefois, pour montrer qu'ils aiment Dieu. Or, 1 Jean 5, au verset 3 dit ceci, c'est simple. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Si vous aimez Dieu, chers frères et sœurs, gardez les commandements du Seigneur. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer le prochain. Comment, la Bible dit, mais comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas le prochain? Nous devons aimer le prochain. En commençant par nos frères et nos sœurs qui sont là à côté de nous. Amen. Parce que Jean 13, au verset 35, dit ceci, c'est par l'amour que les hommes du monde sauront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Et même le témoignage chrétien, n'est-ce pas, passe par l'amour que nous avons les uns les autres. Ça donne envie, n'est-ce pas, aux gens de dehors, des gens qui ne sont pas encore dans la bergerie de Dieu, de revenir au Seigneur. Oui, notre amour ne doit pas être une coquille vide. Une coquille vide. Notre amour doit être plein de sens, se traduire en acte. Ceci voudrait dire que si ton frère a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il est nu, il faut le revêtir. S'il est étranger, il faut l'accueillir. S'il a besoin d'aide, il faut l'aider. S'il a besoin d'assistance, il faut se rendre disponible pour lui. S'il est faible, il faut le soutenir, toi qui es fort. Parce que la parole de Dieu demande que les forts soutiennent ceux qui sont faibles. Voilà ce que produit l'amour. L'amour doit être agissant afin d'imparter la vie des frères et des sœurs, afin d'imparter la vie du prochain. Oui, quand nous avons cet amour dans nos cœurs, nous sommes à la ressemblance du Christ. L'amour est la démonstration que nous vivons d'ores et déjà cette vie épanouie à laquelle le Seigneur nous appelle. Pour conclure ce message, je dirais oui, la volonté de Dieu est que ses enfants aient une vie épanouie en lui. Et cette vie est déjà disponible parce que le Seigneur l'a déjà préparée pour son peuple. Et ma prière ce soir, notre prière, devrait être que le Seigneur nous donne à chacun de nous d'y entrer pleinement pour pouvoir vivre cette vie épanouie en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.